Bonjour et bienvenue sur De droite à gauche, un podcast sur les mangas. Je suis accompagnée de Florimond.
Coucou.
De Lucas.
Salut.
Et de moi-même, Mélanie. Hello.
Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Confinement oblige. On s'est pas vu, on se voit pas. En général, c'est un podcast. Mais on s'entend. Et ça fait effectivement un moment qu'on s'est pas vu.
Deux mois, trois mois. Bah, trois mois de confinement. Trois mois, en fait, ouais. Oui.
Je crois qu'on a sorti le podcast juste avant le confinement.
Ouais, c'est ça.
Début 5 mars.
Deux semaines avant, maxi.
Donc, je sais qu'on vous a beaucoup manqué. Ouais, nous voilà de retour.
Évidemment. Nos 30 auditeurs apprécient notre retour.
Dont la moitié qui sont moi, je crois.
Mais... et voilà, donc on espère que vous avez passé un bon confinement, en tout cas que vous passez un bon déconfinement.
J'aime bien, c'est un peu genre, j'espère que vos vacances ont été cool. Oui, bah oui, oui.
C'est certain, c'est vraiment ça.
Mais surtout, on espère que bah, de votre côté, il n'y a rien à... Tout s'est bien passé, quoi, et qu'il n'y ait pas de personnes.
Pas obligé de plomber l'ambiance.
Ouais.
Santé, amis, famille,
non, mais c'est juste, quoi. Que, c'est juste que c'est marrant de dire, j'espère que le confinement s'est bien passé. C'est pas des vacances, hein. C'est pas que le net, les gens.
Voilà, donc on espère que vous avez lu des mangas si vous avez eu l'occasion, ou n'importe quoi, vu n'importe quel anime ou drama.
C'était
ou film.
Clairement l'occasion d'en profiter.
Rattraper, il y a surtout qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties pendant ce temps-là. Il y a eu Jojo notamment qui est sorti au
sur
début.
Sur Netflix, juste avant. Ouais. Ça venait d'arriver quand on a fait le dernier podcast, vu qu'on en parle dans les actualités.
Mm-hmm.
Puis même, il y a beaucoup d'éditeurs qui ont... Parce que Jojo, c'est indépendant du confinement, mais il y a beaucoup d'éditeurs qui ont fait des trucs très cool, genre mettre des tomes gratuits pendant une période de données. Sur leur site, qui m'a permis de découvrir Berserk, par exemple, le tome 1.
Ouais, cool.
Je n'ai plus le nom de l'auteur, parce que je ne pensais pas en parler, j'avoue. Mais c'était
ouais, j'ai lu pas mal de petits trucs aussi. Ouais, c'est vrai que c'était une bonne... On peut les féliciter pour ça, c'était une bonne...
Initiative
de leur part, ouais. Il y en a qui l'ont mieux fait ça que d'autres.
T'en as qui l'ont fait que à la fin, t'en as qui l'ont fait...
Il y en a qui l'ont fait genre temporaire d'une journée, certains, etc. C'est derrière nous, en tout cas, espérons. Et du coup, on va essayer de vous parler déjà d'une part des dernières actualités, pas mal...
Alors, dans le monde, que s'est-il passé?
Dans le monde des mangas, il y en a pas mal, notamment sur les reprises, etc., des animes. Donc on va pas tout vous faire, mais il y en a quelques-unes, comme d'habitude, voilà, qui nous ont parlé, notamment une de ce matin. Hier matin ?
Ouais, c'est hier matin.
Hier matin, le retour de Shaman King.
Le studio, c'est qui ? J'ai complètement zappé.
Ils l'ont annoncé ?
Ouais, je crois, dans la vidéo.
Ok, mais j'ai pas le studio, mais...
Parce que réadaptation complète de l'anime Shaman King, qui avait déjà été adapté, donc, vers dans les fin 90 jusqu'à 2005, ou un truc du style, enfin, en gros, la période du manga... Il y avait une série de 64 épisodes qui, comme on en parlait juste avant, en gros, a fait coller au manga pour peut-être la moitié ou ses trois quarts, et ensuite partait en live et créait une nouvelle fin, parce que le manga n'était pas fini à l'époque, et que comme on a déjà parlé dans notre première vidéo, enfin, premier podcast, pardon, le manga a eu une vraie fin plusieurs années plus tard, donc voilà, ça peut être intéressant d'avoir une nouvelle série avec les moyens modernes. Quand on voit ce que ça donne sur, donc comme on en parlait tout à l'heure, Hunter x Hunter, par exemple, c'est vrai que enfin, t'as une qualité graphique qui est ouf par rapport à la première série animée des années 90, forcément, donc bonne occasion.
Ouais, hâte de voir ça. On a aussi d'autres actualités d'animés, notamment Eden Zero, le retour avec un trailer de la quête de Dai, Dragon Quest. Y a un nouveau trailer qui vient de sortir, l'anime serait pour la fin d'année, je crois.
Ah, c'est rapide, cool.
On a été teasé il y a un moment, je crois. Peut-être 2021, mais je crois que c'est assez. C'est pour bientôt. Ils ont annoncé en plus 4 jeux vidéo pour aller avec, un sur chaque console,
ouais,
etc.
Et toi, ils font sa grosse sortie, quoi. Ils vendent de l'argent.
Bah, c'est pour l'anniversaire du manga de base.
Ok, quoi, 30 ans.
J'imagine au moins.
Comme, même à l'époque DB que Dragon Ball.
Ouais, c'est ça. Avant Dragon Ball.
C'est
peut-être avant.
Toriyama qui a fait le chara-design d'une partie des personnages. Je sais pas si c'était pour les jeux ou juste le manga.
Non,
en fait,
tous les mangas, je crois. De mémoire, peut-être de la merde. Et j'ai lu La quête de Dai il y a très longtemps.
Moi aussi. Mais il les a pas dessinés, si je me trompe pas, c'était juste le chara-design.
Oui, bien sûr, c'est que le chara-design.
Le trait, c'est full le sien, quoi. Enfin,
oui, c'est ça. Bah,
le gros, de Dragon Ball, quoi.
Et du coup, ça a l'air très cool. L'animation a l'air ultra belle. Donc à voir, je pense que ça peut pas rater. C'est un classique, quoi. Donc c'est cool. Une autre actu
qui date de janvier mais qu'on avait zappé.
Ah oui.
Avec Megumi Okada qui sort Saint Seiya Episode G Requiem, qui est donc la suite de Saint Seiya Episode G, série au long cours, premier spin-off de Saint Seiya du coup dans les années 2000, qui a une publication ultra chaotique avec genre des gros arrêts de série et une fin pas mal bâclée en fait. Il a fait une autre série ensuite qui s'appelait Saint Seiya Episode G Assassin, qui partait dans une direction totalement différente. C'était cool, mais aucun rapport avec la suite, et là il a annoncé la vraie suite, donc Florimond a feuilleté les 4 premiers chapitres, ça a l'air pas ouf du tout,
ouais,
mais tu les as feuilletés sans les traduire, enfin sans bonne traduction.
Ouais, c'est sûr, enfin là je peux déjà dire que c'est pas une vraie suite.
Déjà, pour l'instant, en fait. Alors,
les 4 premiers chapitres, il n'y a aucun rapport ni avec G, ni avec G Assassin, donc on va voir où ça donne. En tout cas, c'est censé être Ça a été annoncé comme la...
Bah déjà la dernière série.
La dernière série et la vraie fin de tout ça.
Absolument. Enfin, G était quand même, je trouve, le meilleur truc qui s'est fait sur Saint Seiya, en fait. Tout simplement. Ouais, ouais. En termes soit d'écriture ou... Graphiquement, c'est spécial, mais j'aime beaucoup quand même.
On verra, ouais.
Donc voilà. Espérons que ça fasse une bonne histoire déjà. Et si possible, une bonne suite.
On passe au coup de cœur. Blue Lock, un manga sur le foot et pas sur le foot. Très spécial.
Très belle description.
L'histoire du Japon qui perd pour la millième fois la Coupe du Monde, je sais plus. Et en gros, il y a des gens assez pragmatiques qui disent qu'il y a peut-être un problème avec les joueurs pour qu'ils gagnent pas. Et il y en a une sorte de génie qui décide que ce qui fait que les équipes de foot gagnent la Coupe du Monde, c'est qu'ils ont un joueur miraculeux, un attaquant qui porte tout, une sorte de mec égoïste autour de laquelle la team se compose. Donc c'est pas vraiment l'esprit du foot.
Mais
cela dit,
ça donne une très bonne idée de shonen.
C'est l'esprit du foot shonen, quoi.
Voilà, c'est ça. Parce que du coup, en fait, effectivement, dans Libetum, on s'en fout un peu des autres persos à part Olivier et donc chaque buteur de chaque équipe, en fait.
Non, t'as quand même d'autres...
Non, on s'en fout vraiment, vraiment. Est-ce que tu connais un seul autre joueur?
Marc,
oui, bah oui, à partir du moment où ils fusionnent, c'est ce que je dis. Oui, quand ils fusionnent, c'est ok.
Oui, quand ils sont dans la même équipe.
Oui, à la méga Coupe du Monde, effectivement, ils sont plus ou moins fusionnés. Et encore, à ce moment-là, tu kiffes
les avancées. C'est Dragon Ball, le truc, ou...
Ben non, mais tu... Oui, non, mais ils fusionnent. Enfin, je veux dire, ils...
En fait, ça a plusieurs petits clubs japonais qui se fusionnent pour faire
l'équipe du Japon. Bah, tu l'as vu. Et ben, au bout d'un moment, en fait, ils deviennent l'équipe du Japon. Donc forcément, tous les petits clubs deviennent... Voilà. Donc dans ce truc-là, le mec qui veut créer l'attaquant ultime pour revigorer le Japon décide de créer une école qui est plutôt un centre de détention.
En concentration, oui.
Où, en gros, il a sélectionné tous les meilleurs attaquants du pays junior. Donc, ils ont tous environ 16 ans. Et il les met tous dans ce truc-là. Et c'est une sorte de battle royale, en fait. Ils sont, je crois, 5 fois 10. Ils sont 300 ou 500, je crois. Et ils sont, en fait, sélectionnés au fur et à mesure des épreuves. Ils doivent d'abord se former une équipe à 10 pour pouvoir combattre une autre équipe. Et puis après, c'est des épreuves individuelles. Et puis après, c'est des épreuves à 3, etc. Donc, ils font toujours du foot. Mais voilà, c'est tourné shonen où ils ont des sortes de dons, de talents. Y en a un qui a une très très bonne vision du terrain, il y en a une autre qui fait des passes incroyables, il y en a une autre qui va très très vite.
Kuroko no Basket.
Oui, non mais totalement, c'est cette veine sportive, manga de sport récente quoi. Mais c'est très beau, d'une part.
Ça avait l'air en tout cas, les planches que t'as envoyées étaient
pas stylées. C'est assez fou, hein, vraiment en termes de dessin.
T'as pas le nom de l'auteur et ou dessinateur, je suppose.
J'ai rien du tout là, je vous avoue.
Oui, non, c'est un peu de l'info.
Je vous avoue, j'ai un peu. Voilà. Et j'espère que ce sera édité en France, j'y crois vraiment, je vois pas comment ça peut ne pas l'être. C'est trop beau et c'est trop cool, trop fun. Voilà, par contre, voilà, les bons sentiments, on les oublie un peu. Le héros, généralement, se tape une dépression parce qu'il se rend compte que bah, il arrive à être le meilleur quand il est le plus ordurier, ce qui est le but de l'école, donc c'est cool. Mais c'est vrai qu'effectivement, plus il fait de choix où il trahit ses potes, plus il gagne. Donc,
triste. C'est un peu... J'espère qu'à la fin, il y aura un plot twist en mode...
Bah non, il ne peut pas y en avoir, puisque le but de l'histoire,
ouais, mais
c'est qu'il y a un seul attaquant.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas une très bonne mentalité à montrer à tout le monde, quoi.
On verra. Moi, ce que je pense, c'est que surtout, les attaquants en question se découvrent des autres postes. Et que finalement, ce sera pas une équipe de 10 attaquants, mais ce sera une équipe de 2-3 attaquants, et puis après 2-3 défenseurs.
Bah, peut-être qu'à la fin, ils vont former leur propre équipe complètement, quoi.
Je vois pas comment ça peut finir bien, de toute façon. Parce que le concept, ce serait que du coup, tous les autres pays vont faire la même chose.
C'est un battle royale, quoi.
Oui, en fait, c'est un battle royale. Mais du coup, c'est très cool. C'est vraiment très fun, voilà.
Du coup, perso, c'est pas un coup de cœur dont je vais parler longtemps, c'est juste que j'ai découvert Jojo, en fait. Tout simplement. Avant le confinement, j'avais regardé sur Animeland, je crois, ou Crunchyroll, le premier arc, du coup, qui est la première demi-saison. C'est relou, leur découpage de saison. J'avais bien aimé, mais genre, comme je vous l'avais déjà dit, je crois, dans un précédent podcast, parce qu'on avait très, très brièvement évoqué, ça m'avait pas transcendé non plus. Et du coup, là, au début du confinement, comme j'ai été pendant 3 jours sans pouvoir bosser du tout, bah, j'ai full regardé Jojo. Et puis, quand ça arrivait sur Netflix, c'était parfait. Donc, du coup, voilà, arc 2, arc 3, arc 4... 2 et 3 sont dispo sur Netflix, ensuite 4, 5 sur ADN, et... c'était une très belle découverte. Et du coup, là, les dernières semaines, enfin, les 3 semaines de déconfinement, avec Flo, on a juste racheté tout ce qu'on n'avait pas encore. Donc, moi, Stone Ocean, plus... et lui, la fin de Steel Ball Run et Jojo Lion. Et moi, donc, tout ce qui était à partir de Stone Ocean. Et donc, ça fait beaucoup de tomes à lire. Et c'était vraiment une belle découverte. J'aime beaucoup Jojo. Enfin, c'est comme ce que tu avais déjà dit. On voit vraiment le côté... ça a inspiré tous les autres mangas presque tous les autres shonen qui sont sortis après, c'est vraiment cool. Mais du coup, voilà, c'est, en fait, j'ai passé tellement de temps à lire et regarder Jojo que j'ai pas trop eu l'occasion de faire d'autres petites découvertes. Et encore une fois, confinement, c'était pas évident. Donc ça m'a permis de découvrir que cet auteur, en fait, était reconnu bien en dehors du milieu du manga, puisque comme on en parlait encore juste avant, il a déjà fait une collab avec deux collaborations avec Gucci. Il a fait un numéro spécial avec le Louvre parce qu'il a été exposé au Louvre en 2010, ce qui est très cool. Et je me dis, pourquoi est-ce qu'en 2010, je ne vivais pas à Paris, nom de Dieu.
Et quant à moi, j'ai pas de coup de cœur, puisque j'ai pas beaucoup lu. Mais là, je suis en train de lire Stone Ocean, et en fait, mon coup de cœur, c'est Jolene, tout simplement.
C'est la vraiment... partie 6 de Jojo, pour info.
Oui, c'est vraiment... Je pense que sur tous les Jojo existants, ça doit être vraiment ma préférée, ma préférée, quoi, de tous les Jojo existants, ce que je viens déjà de dire. Voilà. Mais juste, elle est incroyable, tout simplement, et ça a pris tout de suite... Donc voilà, c'est mon coup de cœur.
Allez. C'est la première itération féminine d'un Jojo, en fait, qui à chaque arc on change de personnage. Et du coup, là c'était la première fois qu'il faisait une femme. Puis globalement, à chaque arc, en fait, il s'améliore. C'est assez fou. Enfin, chaque arc est meilleur que le précédent, ou presque.
Et du coup, c'est le moment maintenant de passer en fait à deux mangas. Dont là on a un petit peu parlé la dernière fois, même beaucoup, mais on va revenir un petit peu dessus. Alors, on va parler de Beastars. Alors, je me tourne vers Lucas. Qu'as-tu pensé, en fait, tout simplement, des nouveaux tomes que tu as lus?
On s'est arrêté après avoir lu deux tomes chacun. Flo avait déjà vu la première saison, mais la dernière fois, on avait vu que deux tomes. On avait beaucoup disserté là-dessus. Donc là, 10 tomes, c'est beaucoup de lecture en plus. Et personnellement, j'ai adoré, j'adore ce manga, c'est terrible. Je sais que tu as des réserves, Mélanie, on en parlera, mais je trouve qu'on va toujours plus loin dans le côté... Enfin, c'est pas critique sociale, mais c'est amener, en fait, des thématiques de notre monde à nous pour en parler. Donc, le racisme, on en a beaucoup parlé, la prostitution, le sexisme, les rapports sociaux en général. Enfin, le manga le fait très bien, avec toujours autant de finesse, et ça aurait pu être casse-gueule, en fait. C'est un peu le... On sait jamais si un auteur ou une autrice, en l'occurrence, réussira à tenir sa bonne idée sans rentrer dans un truc un peu gras ou cliché à un moment ou à un autre. Pour l'instant, je trouve qu'elle s'en sort toujours très bien. Elle continue donc à amener d'autres thématiques. Je sais pas trop en fait de quoi parler dans l'histoire sans spoiler, mais même l'intégration de nouveaux personnages est intéressante. Même, en fait, on n'a pas genre un gros arc, une fin, un gros arc, une fin. On est dans une école, dans un lycée avec des herbivores et des carnivores qui sont ensemble. Il y a le meurtre d'un herbivore, forcément par un carnivore, au tout début de l'histoire. Et en fait, genre, la résolution de cette histoire arrive tome 8, 9, 9 je crois.
C'est le début de la résolution.
Oui, en fait, on sait qui est le tueur.
L'énigme est résolue, mais l'histoire n'est pas résolue.
Et juste c'est pour signaler, en gros, c'est pas forcément un arc principal, mais c'est une histoire parmi la myriade que compte le manga qui met genre quasiment... Donc, la résolution vraie devrait arriver au tome 11, on suppose, mais l'autrice prend son temps, elle pose d'autres petits personnages ou d'autres petites intrigues par-ci par-là, qui se filent les unes les autres, et c'est vraiment très agréable à lire, je trouve, parce qu'elle s'empêche pas de mettre encore des petits éléments quotidiens, en fait, très régulièrement, genre un chapitre qui ne fait pas avancer l'histoire globale, mais qui juste te fait du bien et te pose un peu le contexte de ce monde. Donc il y avait un chapitre qui est très drôle, je trouve, c'est sur les œufs. Parce qu'en fait, donc c'est les carnivores et les herbivores n'ont pas le droit de manger de viande dans ce monde-là, légalement, on va dire, mais ils mangent des insectes. Et surtout, ils peuvent manger des œufs malgré tout. Et genre, il y a une élève poule qui vend ses œufs pour faire des sandwichs. Et genre, c'est un job comme un autre. Et il n'y a pas de oncle là-dedans ni quoi que ce soit. C'est son job. Et elle se rend compte que Legoshi, le personnage principal, adore ses œufs. Il mange un sandwich tel jour dans la semaine. Et c'est le jour où c'est ses œufs à elle. Et... Du coup, il y a un seul chapitre là-dessus. Mais c'était très marrant, je trouve, de voir la fierté de la poule qui fait ses bons œufs, etc. Enfin... Ça regorge de petits moments comme ça, des moments de camaraderie entre les personnages. Pour moi, gros coup de cœur, c'est vraiment la suite des deux précédents tomes, et l'autrice continue à poser des très bonnes sous-intrigues et des très bonnes thématiques, surtout, qu'elle traite toujours aussi justement, à mon sens.
Merci Lucas. Alors Florent, qu'en as-tu pensé?
Moi aussi, j'ai adoré. Je trouve que c'est un des mangas préférés des peut-être 10 dernières années. C'est vraiment, vraiment trop bien. Entre le... Pour pouvoir prendre les mêmes thématiques, le dessin est incroyable. Le dessin
il s'améliore en plus, mais il est toujours si spécial.
Ouais, il s'améliore, il est fou. Il y a des styles graphiques qui se mettent en place. La coupe de cheveux qui change là, ça change tout. Je vais pas spoiler, mais
gars. Ça, t'es tombé amoureux du nouveau Legoshi.
C'est vraiment, vraiment fou quoi. Les thématiques elles sont superbes. Le fait qu'il n'y ait effectivement pas vraiment d'arc défini fait qu'en fait on suit toujours, on a toujours envie de savoir la suite pour tout le monde. Il y a des personnages qui vont, qui viennent. Tous les 4-5 chapitres, il y a un chapitre qui va nous agrandir tout l'univers d'un coup, genre nous balancer une bombe sur ce qui s'est passé avant, pourquoi il y a quelque chose, ou il y a un ordre social, ou c'est fou, genre chaque tome, il y a un truc qui agrandit l'univers et qui nous fait imaginer, nous poser des questions sur pourquoi c'est comme ça, comme si...
Alors que de prime abord, tu dis que genre on a déjà un univers qui est assez grand, même si on est dans un microcosme, parce que genre on a une école et une ville globalement, mais... on a déjà l'impression de pouvoir tourner en, dans un truc assez grand pour ne pas avoir besoin d'en rajouter, et pourtant elle te crée régulièrement du background comme ça.
Donc ouais, on est arrivé au 10e tome, le 11e va peut-être clore quelque chose, on sait pas trop. Cette fin d'arc qui n'en est peut-être pas une, elle nous a amené à 10 tomes de folie vraiment quoi.
Du remplissage quoi.
Ah ouais non, totalement, il y a vraiment, même quand il y a un chapitre qui est totalement hors fil rouge, il apporte beaucoup, il est beau, poétique, à la fin on a des larmes aux yeux, enfin, non, c'est fou quoi, il y a des sentiments vraiment, quand on finit un tome de Beastars, on n'est pas indemne et on s'en fout pas quoi, ça apporte vraiment quelque chose de plus quoi.
Legoshi est vraiment un personnage que j'adore, mais tellement, enfin, c'est un personnage toujours un peu mélancolique, globalement, pas à sa place, il essaie de faire des efforts, mais il sait que c'est un privilégié d'une certaine façon, et du coup, comment il vit avec ça, enfin, bref, c'est... Ouais, non, je sais pas, c'est vraiment, c'est original, et l'autrice écrit ça super bien, enfin...
Mel ?
Bah du coup moi je suis pas d'accord. En fait je suis totalement d'accord avec vous sur le point de l'univers. Je trouve qu'effectivement l'univers est ultra riche, ultra intéressant. Il y a plein d'éléments du background et, ou de nouveaux personnages qui sont introduits. Là je crois que dans le dernier tome ou l'avant-dernier tome il y a un personnage qui est introduit et on l'a vu vraiment très brièvement mais qui m'a émue vraiment beaucoup. Voilà, ce que je veux dire, c'est que les nouveaux personnages qu'on nous introduit, même des personnages que pour le moment on se pense que n'auront pas forcément d'utilité par la suite, ces nouveaux personnages sont vraiment hyper intéressants et ils sont émouvants aussi, on a de l'intérêt pour eux. Et voilà, c'est tout cet univers-là est vraiment très cool. Mais du coup, en fait, moi j'ai été vraiment, vraiment déçue par la direction prise par l'autrice sur la relation en fait Haru et Legoshi. Enfin, ça m'a pas intéressée, j'ai pas trouvé ça bon. Il y a une image qui ressort de ça qui, je trouve, n'est pas bonne et pas saine non plus. C'est-à-dire que, en fait, Haru, elle est open pour la relation. Je veux dire, il n'y a pas d'ambiguïté sur ça. Haru, elle dit à Legoshi, bah, en fait, que sa relation avec lui, c'est fini et que, du coup, maintenant, elle est open pour sa relation avec Legoshi. Et c'est Legoshi qui, tout seul, décide que, en fait, non, c'est pas bon, alors que Legoshi aussi veut. Donc, en gros, Legoshi prend tout seul une décision qui les concerne tous les deux, ce que je trouve ça déjà très malsain, très mauvais, parce que c'est pas à lui de prendre une décision comme ça, alors que ça les concerne tous les deux. Et surtout, en fait, pourquoi ça n'a aucun sens? On a, en fait, à un moment, dans un des tomes, une scène hyper intense, hyper émouvante, où te dis, ça y est, on est passé d'eux, ils se tournent un peu autour, et là, en fait, ils sont vraiment ensemble, ou en tout cas, ils vont faire le chemin pour être ensemble. Et en fait, un tome après, c'est complètement détruit par l'autrice. C'est vraiment, pour moi, cette scène qui était hyper mouvante, on peut l'enlever, elle sert à rien. Donc j'ai été très déçue de cette tournure prise par l'autrice. Ben en fait, voilà, le fait que Legoshi décide de lui-même, alors que Haru, elle est ok, bah ça déjà, j'ai pas compris. Et j'ai trouvé en fait que... Tu parlais de clichés tout à l'heure, le cas, et j'ai trouvé justement que tu disais que l'autrice évitait les clichés. Et en fait, pour moi, c'est tombé direct dans le cliché de... Ils veulent être ensemble, ils s'aiment, mais en fait, pour une raison inconnue, bah, pendant 10 tomes, ils vont pas être ensemble. Et surtout, il y a une phrase qui m'a profondément surprise, c'est... Legoshi a donc dit « Non, ça me va que tu sois pas ma copine, je préfère te protéger de loin. » Donc déjà, il décide de lui-même. Et ensuite, il a un moment avec un autre mec dans l'histoire où il dit « Ah, c'est compliqué, les filles. » Mais what the fuck, c'est toi qui es compliqué, mon gars. Enfin, je veux dire... Et en plus, déjà, cette phrase qui, elle-même, est cliché à souhait de dire « C'est compliqué, les filles », qui renvoie encore l'image que « Ah, mon Dieu, c'est difficile de parler avec les filles », alors que c'est Legoshi qui se pose des problèmes. Legoshi qui commence à dire « Je vais sauver absolument tout le monde », alors que personne ne lui a rien demandé. Je trouve que la tournure prise par Legoshi... Autant Legoshi a toujours des moments qui sont marrants et que j'aime bien regarder, mais en fait, à partir de... Enfin, là, à la fin du tome 10... Je suis plus intéressée par l'arc de Legoshi. Dès que je vois d'autres personnages, d'autres trucs de l'univers, ah, c'est super intéressant. Dès que c'est Legoshi, ça m'intéresse pas. C'est juste qu'en fait, je pense que le shonen de le Beastars, en fait, a tellement mis la barre haute sur son histoire, sur ses personnages, sur ses interactions. Du coup, je me suis dit, ah, c'est super, l'autrice, elle va pas tomber dans le vieux cliché de « on est ensemble, mais non, mais oui, mais non, mais oui, mais non, mais oui, mais non ». Et en fait, t'as un moment qui te dit « ah, elle tombe pas dans le cliché », et genre le tome d'après, « ah bah si, elle tombe dans le truc ». Moi, j'aurais préféré vraiment voir Haru et Legoshi qui se mettent ensemble, même si leur relation est encore timide, parce que tout simplement, il n'y a pas besoin de mettre autant de difficultés pour le fait qu'ils se mettent ensemble, parce que la société dans laquelle ils vivent va déjà leur mettre des difficultés quand ils seront ensemble. Donc, si à un moment, ils se mettent finalement ensemble, ce qui va certainement arriver, bah, du coup, en fait, on va avoir plein de difficultés avant, plein de difficultés pendant. Mais c'est trop lourd, en fait. Ils pouvaient se mettre ensemble timidement, et essayer de construire comme ça une relation avec toutes les difficultés qui vont arriver derrière. Il y avait Juno, il y avait la société, il y avait le fait que c'est un herbier incarné, il y avait le fait qu'ils ont leurs propres instincts, il n'y avait pas besoin de rajouter ce truc en plus.
Alors, en fait, je pense que le... Je comprends à peu près ton point de vue, mais je veux ultra dur déjà.
Oui, oui, oui. Bah, en fait, je suis trop déçue, en fait, c'est pour ça. Parce que j'ai trop aimé ce manga, et j'ai aimé trop la relation Haru et Legoshi. Et du coup, c'est comme si on m'avait fait miroiter quelque chose. J'étais là, ah, c'est trop bien, j'ai trop hâte. Et en fait, on me l'a repris.
Après, ma lecture n'est pas aussi fraîche que la tienne, et j'ai pas lu genre tous les derniers tomes d'un coup, mais espacé. Donc ça peut peut-être un peu jouer, j'ai pas d'aussi bon souvenir peut-être, mais je trouvais pas ça aussi non plus, genre gros pas en arrière, c'est juste ça n'avance plus, même si Haru est prête, parce que Legoshi, c'est lui qui se sent pas prêt, j'en sais pas, il lui en veut pas à elle de quoi que ce soit, il lui reproche rien, ou il sait toujours pas comment il pourrait réagir avec Haru, s'il pourrait la bouffer ou quoi, si c'est vraiment de l'amour, ou je crois que ça il a plus ou moins statué quand même, le fait qu'il l'aime vraiment, que c'est pas juste des instincts
carnivores. Ça il l'a dit qu'il l'aimait, ouais.
Mais enfin voilà, pour moi, c'est parce que le personnage lui-même a encore besoin d'évoluer, même si je pense qu'on en est pas loin d'une bonne évolution, et j'imagine que le tome 11-12 maximum apporteront vraiment quelque chose en fait avec la fin du premier arc, on va dire.
Bah, je suis d'accord avec toi que effectivement c'est Legoshi qui n'est pas prêt, mais en fait soit c'est pas montré comme ça dans le tome, ou alors c'est tourné, enfin, ou alors c'est Legoshi qui le tourne comme si c'était Haru le problème, ou je sais pas, j'ai pas eu cette impression de ouais il est pas prêt et il le dit, et du coup cette impression de c'est il sait pas que c'est lui qui est pas prêt. Bah, j'ai l'impression qu'on a mis le truc sur Haru, et du coup en fait c'est à Haru d'attendre que Legoshi prenne la décision que ok, là ils peuvent se mettre ensemble, il y a pas de discussion entre les deux, et s'il y a bien un ressort scénaristique que je ne supporte pas, parce que c'est un truc que j'ai vu un milliard de fois, c'est je fais ça pour ton bien, ou oui mais je sais que c'est le mieux pour toi, c'est pas dit, je sais plus si c'était dit comme ça ou pas, mais j'ai l'impression que c'est un peu montré comme ça, et je trouve qu'en aucun cas c'est romantique que la personne prenne la décision pour l'autre. Si Haru elle veut pas, elle le dit, c'est pas à Legoshi de le dire.
Moi je suis pas d'accord du tout. C'est la vraie vie d'une part. Ouais. C'est toujours à sens unique la vraie vie. Pas de... Sauf quand t'as des enfants.
Des fétiches, bonjour.
Non mais en vrai, oui, oui. Je sais pas, en tout cas dans toute ma vie ça a toujours été à sens unique. Alors, peut-être que c'est qu'un exemple, peut-être que je suis l'exception qu'on fait dans la règle, je ne pense pas. Mais c'est bien connu que les femmes reprochent toujours aux mecs d'ailleurs de faire à sens unique, donc je pense que c'est la vraie vie. Et d'autre part, c'est faux. Il le dit que c'est lui qui n'est pas prêt, et il le dit qu'il part en entraînement pour ça, et il le dit pourquoi il veut le faire, etc. etc. Genre, c'est très clair.
Mais il ne le dit pas à Haru, en fait. Il ne le dit pas à Haru.
Je crois qu'il le dit à Haru. Pour le coup, je pense que la fois où ils se break, où il dit pour l'instant c'est mort, il y a aussi le coup de Louis. De mémoire, il lui demande si elle est toujours amoureuse.
Mais je crois qu'elle disait non.
Mais ça, dans ma tête, ça arrive. Le fait qu'elle lui dise vraiment qu'en gros, avec Louis, c'est fini, c'est ultra tard, genre tome 9. Maximum.
Oui, ça arrive tard.
Mais du coup, ce qui veut dire qu'en fait, l'arc... il y avait une vraie attente entre deux, tu vois, et elle aussi avait une attente.
Pour moi, l'arc, la vraie romance de l'histoire, c'est Louis Legoshi.
Bah, c'est la
c'est
romance,
Sasuke quoi, Naruto. Oui. Legoshi doit aller chercher Louis.
Louis est mieux écrit. Quoi.
Oui, mais c'est exactement le même scénar.
Oui, c'est vraiment le même
scénar. Legoshi doit aller chercher Louis et le sauver. Et il s'est perdu.
Donc on a très peu parlé de lui, mais bonne évolution aussi sur le personnage, oui, très inattendu contre,
Louis,
en fait.
Ouais, incroyable. Louis, je l'adore, il est incroyable, devient, bah, il
c'est,
est vraiment
c'est Sasuke, hein. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'on peut, franchement, limite, ça remet en valeur Sasuke. Je trouve que l'arc est le même, plus ou moins, il se perd dans les ténèbres pour arriver à un objectif, il ne peut plus devenir Beastars, donc il décide de faire autre chose, je trouve que c'est trop bien, et du coup Legoshi devient fort en partie parce qu'il doit protéger tous les Herbies, et y compris, il doit aller sauver Louis.
De lui-même quasiment, mais voilà.
Oui, c'est ça.
Il y a un autre personnage qui a été introduit, tome 8-9, un personnage masculin qui au début passe pour... Alors, c'est le mouflon.
Mouflon.
C'est quoi déjà ? C'est la couverture du tome 9, donc il a dû être introduit, tome 8-9.
Ah et, oui.
Il est introduit un peu comme un genre... Au début, tu dis, mais c'est genre un sous-Louis. Tu extrémises les défauts de Louis en mode genre je suis le meilleur ou autre, mais tu retires le côté intelligent de Louis. En fait,
c'est
pas du tout.
Pan ?
C'est un dandy, ouais.
Pinard ?
Pinard, comme
Pinard,
le
mouflon.
C'est donc Pinard, le mouflon, du coup. Et ouais, déjà, graphiquement, il est magnifique. Ouais. Et l'autrice dit dans sa fiche perso, il y a une fiche perso à la fin de chaque tome ou presque. L'autrice dit du coup qu'il est super dur à dessiner, je veux bien le croire, quoi, il est stylé. Et bref, en gros, ce personnage, dans le tome 9, il pop dans une situation qui est bien merdique où tu dis comment ça peut finir. Et genre, il sauve la situation et du coup, le personnage gagne vraiment en profondeur et est super intéressant. Et...
Il passe de personnage totalement tertiaire et surtout limite désagréable, un peu désagréable. À un personnage totalement principal.
Totalement.
Mais il est pas le seul à avoir des très bonnes évolutions. Donc Juno, on en parlait vite fait en off, je crois tout à l'heure, qui est une louve du coup.
Plusieurs tomes nuls, mais d'un coup elle est redevenue OP.
Bah en fait, elle était.
C'est une sous-Louis.
Elle échoue au début, genre dans sa relation un peu louve, mais qui est moins respectée que la Legoshi. Ensuite elle évolue, elle est respectée par tout le monde. Et après tu te dis, ouais, son objectif c'est un peu naze, c'est juste elle force de ouf. Et en fait, fin du tome 9, je crois, elle a une scène trop bien avec Haru. Et on l'a pas revu, je crois, du tome 10 du tout. Haru non plus, d'ailleurs, si je me trompe pas. Et j'ai hâte de voir la suite, vraiment. Enfin, ce manga me fait plaisir de ouf. J'espère vraiment pour toi, Mel, que la suite t'accrochera plus, qu'il y aura une évolution qui te plaira plus. Voire limite, j'ai envie de dire, relis-les pour voir si c'est.
Non, mais après, pour tempérer un peu mon propos, c'est parce que j'ai adoré les premiers tomes, quoi. Vraiment, l'histoire elle est incroyable, les persos ils sont incroyables, l'univers il est incroyable. C'est juste que parfois en fait justement ce que tu disais oui il y a une critique de rapports sociaux, d'enjeux sociaux, bah justement en fait des fois je comprends pas forcément ce que l'autrice essaye de dénoncer en fait.
Après c'est un peu comme ce qu'on a dit la première fois, il y a des fois où je pense qu'il faut pas forcément essayer de tout rapporter à une critique, parce que des fois par exemple le marché noir ça peut être, selon le point de vue ça peut être la prostitution, ça peut être la drogue, enfin c'est littéralement ça, bref il y a plein de choses que tu peux voir et c'est pas toujours littéral non plus, genre les gens qui se font bouffer c'est pas toujours littéralement ça,
oui c'est ça,
ça arrive aussi quand même, enfin il y a des énormes thématiques de racisme ordinaire etc qui sont traitées là dans les derniers tomes,
dans le dernier tome il y a surtout on voit que le marché noir ne concerne pas, il y a pas que les carnivores qui vont manger de l'herbivore au marché noir,
ça se paye un peu,
les carnivores aussi subissent le marché noir en fait, ceci dit tu le vois c'est tout, non ça va,
mais tout le monde subit le racisme et
mais du coup c'est bien qu'il l'ait mis, parce que
Jono est témoin du racisme que subit Haru. Legoshi, il le voit toutes les trois pages.
Bah, Legoshi, c'est le. Enfin, Legoshi, c'est très négatif de dire Social Justice Warrior, parce que c'est souvent utilisé négativement, mais c'est ça un peu le personnage de Legoshi.
Bah, pas vraiment, parce qu'il essaie pas de combattre l'ordre établi. Il aimerait changer le monde. Il aimerait sûrement changer le monde, mais je pense qu'il essaie pas de combattre et de changer le monde. Non, justement, non, je pense pas.
Tu crois pas ?
Il veut pas être Beastar.
Non,
il ne veut pas changer le monde. Il veut juste protéger ses proches.
C'est pas faux. Ça reste réduit, mais du coup, il veut au moins changer son petit
quotidien. Il est traumatisé par la mort de Tem. Il est amoureux d'Haru. Les deux, il y en a un qui est mort, l'autre qui est la plus grosse victime des herbivores presque. Genre, il y a un moment, un petit passage où ils expliquent que les lapins nains, c'est vraiment, même chez les herbivores, des victimes.
Ah, après, il y a pire, il y a vraiment les mini bestioles, genre les musaraignes ou autres.
Alors ceux qui sont écrasés notamment.
C'est marrant en fait, dans l'école, je sais plus si on en a parlé la première fois, mais tout existe en plusieurs tailles en fait. T'as genre pour les bestioles normales ou grandes.
T'as les escaliers. Pour
des passages couloirs, en haut des couloirs,
Et du coup, lui c'est le témoin, la personne ordinaire qui réalise que le monde est raciste, hiérarchique, capitaliste, etc. et qui se déconstruit chaque page au fur et à mesure tout en apprenant à se défendre et à défendre ses proches. Et c'est vraiment quelqu'un qui essaie de se déconstruire dans la vie de tous les jours et de sortir un peu du patriarcat, etc. Du racisme, c'est incroyable. Vraiment, c'est un manga qui parle en 2020, là, qui devrait parler à tout le monde.
Mais justement, en fait, c'est que des fois, j'ai l'impression justement que ce racisme qui est dénoncé, en fait, il est dénoncé parfois envers ceux qui ont le pouvoir, envers les carnies, en fait. Parce que les carnies, en fait, sont là aussi en train de dire que, en fait, ils sont pas tous des bouffeurs d'herbi, et donc, du coup... j'ai l'impression que les blancs ils font pas tous des trucs mauvais aux personnes de couleur, enfin j'ai l'impression d'entendre un peu ce discours là dans le manga, et en fait du coup c'est pour ça que je dis je suis pas sûre des fois qu'est-ce qui est dénoncé et par qui ou pourquoi en fait,
parce que je pense que c'est pas non plus uniquement noir contre blanc,
je pense que leur monde est peut-être déjà un peu plus mitigé que le nôtre. Et je pense que le nôtre est beaucoup plus mitigé que tu ne le veux le croire, c'est tout.
Quand on dit que ça dénonce des thématiques qui ont écho avec la nôtre, du coup, moi, j'essaie de faire justement le comparatif entre leur société et notre société, et ça ne peut pas matcher complètement.
Tout n'est pas toujours du tout,
effectivement. Il ne faut pas appliquer
à... Pour rester sur le fait que ça reste un monde fictif, en fait.
Oui, mais juste, tu le ressens, toutes les 5 pages, tu as un truc qui te parle.
Oui, bien sûr.
C'est obligé. Genre, vraiment, chaque situation, chaque page, tu peux voir un truc de notre monde. C'est genre vraiment...
Ça, c'est sûr, le racisme
et le sujet principal.
Adoré un truc qui s'est produit assez dernièrement, je sais plus exactement du coup. Donc il y a eu encore eu des soucis avec les carnivores, et du coup, genre l'école, parce qu'il y a beaucoup de clubs dans leur école, et du coup, genre l'école veut arrêter les clubs mixtes, tout ça, et genre c'est les élèves, les herbies en avant en fait, qui ne veulent pas ça, qui veulent rester avec ensemble et lutter un peu contre leur racisme, on va dire leur spécisme.
Pour conclure, le manga est vraiment très bon quand même. Voilà, moi c'est ce que je dis sur Haru et Legoshi, c'est mon truc à moi, c'est mon avis personnel, ça change rien en fait que le manga est très très bon, on est tous les trois d'accord sur ça, sur l'univers, les thèmes et sur tous les personnages de manière générale. On va passer à ActAge. Lucas, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ActAge?
La présentation. Donc, ActAge de Tatsuya Matsuki et Shiro Usasaki, donc un auteur et une dessinatrice, traduit en français par Fédoua Lamodière aux éditions Kiyun en l'occurrence, 10 tomes actuellement en VO, 2 tomes parus en VF la semaine dernière, tout frais pour nous. Je crois que tu l'avais évoqué super brièvement au deuxième truc, parce que tu avais, ou quand on parlait des choses qu'on aimerait découvrir, ou alors on l'a peut-être dit qu'en off, je sais plus.
Mais
on attendait avec hâte de le lire depuis le précédent podcast, et comme il y a le confinement, on a dû attendre, parce que ça devait sortir en avril et c'est sorti en juin.
Je sens la déception dans ton intonation.
Non, donc du coup, j'ai lu Jojo en attendant. Mais je veux dire, ouais, on l'a attendu un petit moment, mais bon. Comme j'ai commencé pour Beastars, j'ai peut-être laissé quelqu'un d'autre commencer en l'occurrence.
Eh ben écoute, cette fois-ci, c'est moi qui vais commencer. Tout simplement, j'ai adoré. Alors, avant de rentrer un peu plus dans mon ressenti, je vais plus vous expliquer un petit peu le contexte de Actage. En fait, Actage, on est dans l'univers de l'acting, tout simplement. Et on suit, en fait, Kei Yonagi. Voilà, une lycéenne de 17 ans qui a en fait un don, c'est-à-dire qu'elle utilise une technique dont j'ai oublié le nom, je crois que c'est Stanislavski, il y a un S que je dois pas mettre au bon endroit. En fait, voilà, elle utilise cette technique qui consiste à puiser dans ses propres émotions, son propre passé, les événements qu'elle a pu vivre pour pouvoir en fait interpréter ce qu'on lui demande d'interpréter. Et du coup, en fait, elle rentre complètement dans le personnage puisqu'elle est le personnage qui vit la situation. Et la situation, en fait, c'est plus une situation fictive, c'est tout simplement une situation réelle.
Du coup, elle est incapable de suivre un scénario.
C'est ça, elle est incapable de suivre un scénario et de prendre du recul sur elle-même. Et du coup, ça donne lieu à des situations très cocasses, tout simplement, où en fait, les personnes autour sont complètement abasourdies par les actions qu'elle peut faire, mais parce qu'elle, dans sa tête, elle est dans son bon droit, elle fait ce qu'il faut, en fait. Sauf qu'elle n'a pas le recul de... en fait, c'est un tournage, et il y a d'autres personnes, et il y a d'autres acteurs, et donc, du coup, elle n'est pas toute seule dans son délire, dans son truc. Mais les personnages sont ultra intéressants. Sur les deux tomes qu'on a lus, on a déjà une bonne myriade de personnages qui ont été introduits. Je ne sais
pas à quel point tous sont importants, mais on en a pas loin d'une dizaine qu'on devrait revoir très régulièrement, tout, je pense.
Ils en introduisent 24 à la fin.
Ouais, mais genre les 24 sont nommés, mais on s'en fiche.
Oui, on sait pas encore qui c'est exactement.
Entre ses potes un peu proches, le réalisateur qui la suit avec son assistante et ses deux frères et sœurs, et l'ange, on parlera du tête après. Ça fait en tout pas loin d'une dizaine de personnages.
Le boss de Star, son fils.
Son fils. Donc du coup, ça fait déjà une bonne quantité de personnages, mais tous ces personnages ont déjà une consistance.
Ils sont tous bien définis.
Voilà, ils sont tous bien définis, certains plus que d'autres, mais bon, ça fait partie du manga, quoi. Et voilà, là, pour le moment, on a du coup Kei, et en fait, le réalisateur qui la chaperonne, qui la forme, qui s'appelle...
Qui l'a découverte, ouais.
Comment il s'appelle déjà ?
Sunmiji,
ouais. Et en fait, leur duo est très cocasse, c'est très marrant. On sent qu'il sait comment la mener, et en même temps, elle est pas tendre avec lui non plus, donc c'est très drôle. Donc voilà, en fait...
Aucun des deux n'est tendre, ils s'insultent tout le
temps. Oui, ils s'insultent tout le temps, mais du coup, c'est très marrant. En fait, ça fait une relation très fraîche, en fait, très sincère entre les deux. Ouais. Et on sent que Sunmichi l'attire vers le haut, puisqu'il l'apprend à évoluer. Et en même temps, on sait qu'il a besoin d'elle. Pour le moment, on ne sait pas plus de choses à ce sujet.
Il y a un projet de film spécial. Parce qu'en fait, c'est genre un réalisateur, c'est le réalisateur japonais. Au Japon, il n'est même pas très connu, mais ils nous disent qu'il a participé qu'il a été primé aux trois plus grands festivals mondiaux. Donc, ils citent le festival de Cannes, Venise et Berlin. Ils zappent complètement les Oscars, j'ai kiffé. Donc,
voilà. C'est vrai, ils ne mentionnent pas.
Parce que c'est le cinéma plus un peu auteur qui cite, je pense. Mais voilà, en gros, c'est un réalisateur japonais tellement spécial que même au Japon, il ne marche pas trop, mais c'est kiffant. Et donc, il a un projet, on ne sait pas ce que c'est, de film, sans doute, avec donc, une actrice de talent. Et il dit que sans cette actrice, il n'y arrivera pas. Et il découvre donc Kei Yonagi, qui le bluffe absolument.
C'est ça.
Et un truc qui est cool, c'est que Sumiji, du coup, le réal en question, il a 39 ans. Donc ils ont 20 ans de différence et il n'y a pas du tout, en tout cas a priori, d'idée de love interest potentiel.
J'espère en tout cas.
Ouais, après on n'est jamais à l'abri, il y a des histoires qui le traitent très bien, une différence d'âge, etc.
Tout à fait.
Mais là pour le coup il n'y a vraiment rien, quoi. Genre c'est son père, quoi. Et comme elle n'a pas eu de père...
Oui, son père s'est enfui, on ne sait pas trop quand ni comment, tout ça. Ouais. Et sa mère est décédée quelques années, je crois, avant l'histoire.
Ouais, voilà.
C'est ça. Et du coup, elle s'occupe en fait de...
un petit frère. Ils sont très mignons aussi.
Ils
flippent un peu de elle, des fois. En fait, il y a plein de fois où ses réactions sont pas normales. Même dans la vraie vie, genre, elle sait pas trop quoi afficher comme réaction, donc elle réfléchit à un film qu'elle a pu voir, et elle se met à agir en fonction de ça. Ça fait pas naturel, mais tout le monde lui dit, en même temps, c'est pas...
Ses petits frères et sœurs lui disent, en gros, que si elle fait pas actrice, elle pourra pas réussir dans la vie, parce qu'en fait, elle est frère à tout le monde, etc., elle pourra pas avoir d'amis, etc., donc... Elle n'a qu'une voix, quoi.
Et d'ailleurs, c'est marrant, parce qu'en fait, elle est comme ça avec son talent d'actrice, parce qu'elle a passé genre sa vie à regarder des vidéos de films, et c'est des cassettes vidéo. Et ça me fait rire, parce qu'en fait, les lecteurs d'aujourd'hui qui lisent ça, savent peut-être pas ce que c'est qu'une cassette, parce que je pense que le Japon est passé au DVD encore avant nous, donc voilà, ça m'a juste fait rire de voir une collection de cassettes vidéo comme ça.
Après, forcément, c'est les achats qu'avait son père ou sa mère,
Donc... Ouais, je veux quand même bien les mettre.
Parce que depuis...
Pardon, oui. ils citent plein de films, parce que t'as ça, les films qui sont chez elles, mais en fait, il y a des... Donc les persos sont acteurs, donc tous citent des films, et surtout, t'as des petites fiches perso entre certains chapitres, donc on met genre les points... Point fort, point faible des personnages, leurs films préférés ou autres, et c'est ultra diversifié, et mine de rien, ça te pose super vite une personnalité, peut-être cliché par moment,
c'est
mais...
C'est vrai,
moi, j'aime pas trop, parce que c'est très cliché. Genre, en fait, chaque personnage a son genre de film.
Alors, t'en as certains qui sont un peu différents. Des fois, genre, c'est cinéma d'auteur, ça veut rien dire en soi. Mais ouais, je suis d'accord.
Quand ils citent trois films, ils font... En fait, ils citent trois films, et après, ils te font une phrase du genre « Oui, il aime les Wes Anderson Spaghetti », tu vois. Et tu fais « Ah, ok, donc en fait, tout le monde est cliché. Ouais. Tout le monde a un type de film. »
C'est le début, je pense, un peu. Et elle sort du lot, par exemple. Mais ouais, ça fait un peu présentation facile. En fait, une fiche perso, c'est quasiment toujours cliché, de toute façon. Tu y vas en mode cliché.
Oui, c'est vrai.
Ah, c'est vrai qu'en fait, en quelques mots, tu fais le résumé d'une personne. Donc,
c'est juste que plutôt de dire, genre, il a ce caractère-là, tu mets juste « Il aime ces films-là », ça revient un peu même, ça varie un peu. Et ça fait un peu, genre, on balance plein de références.
Oui, c'est surtout ça.
Ça fait aussi référence.
C'est pas du tout centré sur le cinéma japonais. T'as de tout. T'as vraiment beaucoup d'Américains.
Il y en a un seul, je crois, qui est fan de cinéma japonais.
C'est le fils de la
fille de Star.
Lui d'ailleurs il est sympa comme personnage, genre, il veut que sa mère le repère, donc il veut être doué, et sa mère en fait l'ignore un peu, j'ai l'impression.
Enfin, bah en fait c'est un bon acteur.
Mais c'est pas un acteur star.
Il est juste parmi tous les stars, il est normal.
On découvre en fait dès les premières pages quasiment, on voit une affiche d'elle, mais elle apparaît vraiment qu'à la fin du tome 1 ou dans le tome 2.
Elle qui ?
J'allais la citer du coup, okay. C'est l'autre personnage qui sera peut-être principal parce qu'elle est en cover du tome 2 tout simplement.
Totalement le personnage principal.
Et sinon elle sera peut-être rivale, on sait pas trop. Bref, mais elle c'est une actrice jeune mais déjà accomplie qui s'appelle donc Shiyoko Momoshiro, qui c'est l'ange de Stars. Stars c'est la chaîne, c'est l'agence pour laquelle il bosse. Et genre c'est une actrice qui fait rêver tout le monde, qui est jeune mais qui est trop forte et tout. Et voilà, comme elle bosse dans la même agence que le fils de la productrice, bah il est forcément inférieur à elle. Mais bref, il y a une relation potentiellement sympa entre tous en fait. On sait pas trop où ils iront. Parce qu'en fait, il y a une confrontation. Le tome 2 te donne trop envie d'avoir la suite parce que t'as une vraie première vraie confrontation entre donc Kay, la jeune mais qui a un talent un peu spécial même si elle est chelou, et mais qui est ultra intègre en fait. Elle vit ses émotions et du coup l'ange qui elle ne vit jamais ses émotions. On lui dit toujours qu'elle a un masque en fait et qu'elle ne vit jamais, qu'on sait jamais à quoi elle ressemble vraiment ou autre.
En fait, elle est tellement pro.
Ouais, elle s'est perdue derrière.
C'est un génie en fait. Elle peut imiter n'importe quelle émotion, donc en fait, t'en as plus à elle. Quoi.
Mais ce que du coup, ils évoquent pas mal ça en fait, le problème quand tu peux être acteur, à savoir devoir tellement te plonger dans différents rôles que qu'est-ce que tu es toi derrière ça. Et c'est vrai que ça peut faire un peu cliché de ouais, enfin, genre, ça reste un acteur, il est hollywoodien, il est bien payé, mais mine de rien, ça doit vraiment pas être évident de travailler sur ce genre de truc. Donc voilà. Thématique potentiellement, enfin c'est même pas potentiellement, très intéressante qui seront traitées je pense, et les deux personnages, c'est aux antipodes, mais même graphiquement ça se voit, hein, cheveux noirs longs pour l'une, cheveux courts blancs pour l'autre.
Ouais c'est pensé je pense.
Code couleur le plus basique du monde, mais c'est...
Mais ça marche bien ouais.
Une autre thématique qui est très intéressante aussi, surtout quand on parle de Shiyoko souvent, c'est comment communiquer quand on vend un film.
Ah ouais,
et la promo, il y a beaucoup de détails sur pourquoi un réalisateur ferait un tel choix, quels moyens mettre, comment marche un film, comment marchent les affiches de films, etc.
Le fait d'avoir plusieurs caméras par-ci par-là, en fait, genre Shiyoko est toujours consciente de où se trouvent les caméras. En fait, ce qu'ils expliquent, je sais pas si c'est vraiment comme ça, si c'est au Japon ou pas, mais ils disent qu'en fait un acteur se fout un peu de savoir où est la caméra, il joue ce qu'on lui dit, et au pire il le fera plusieurs fois s'il faut, point à la ligne, en gros. Sauf que Shiyoko, elle sait où sont les caméras, donc elle sait comment montrer son meilleur profil. Je pense que c'est une explication assez cliché pour la valoriser, mais c'est super efficace, et c'est intéressant de suivre un peu le process, aussi irréaliste qu'il soit.
Oui, ça fait un peu super pouvoir. Genre, elle se met à la place, elle prend la place devant certains acteurs sur les caméras parce qu'ils sont moins bons qu'elle, donc elle sauve la scène.
Et même pas forcément pour être désagréable avec les autres, mais c'est plus en fait pour que la performance mauvaise se repère pas, elle sauve la scène et c'est très bien joué.
En fait, c'est pas un mauvais personnage d'ailleurs, elle est pas mauvaise. Juste, elle est trop professionnelle et son but, c'est juste qu'un film marche, etc.
Ouais. Par exemple, je parle souvent de pas être en retard sur le planning. Et en fait, elle, par exemple, justement, il y a une scène où elle tourne avec quelqu'un et la personne avec qui elle a la réplique, on dit qu'elle joue un peu mal. Et donc, du coup, elle fait ce qu'il faut pour qu'on puisse quand même boucler la scène et pas perdre du temps sur le planning et tout ça. Ouais. Donc, en fait, elle est vraiment... Elle est, comme tu dis, elle n'est pas mauvaise ni rien. Son intention, c'est pas d'être méchante. Son intention, c'est d'être pro jusqu'au bout, que le film soit bouclé, que le film sorte, que le film marche. Et je pense que c'est ça aussi qui rend le truc super intéressant, c'est que ça fait un énorme, pas clash, mais une grosse confrontation entre deux visions complètement opposées. Où, comme tu dis, tu as Kay qui vit ses émotions, mais qui vit trop ses émotions.
C'est pas quand arrêter la scène.
C'est ça, exactement.
Elle est débutante aussi.
Elle est débutante
professionnelle et ils extrémisent le truc avec sa personnalité d'être un peu chelou comme ça. Quoi.
Voilà, et après, t'as Ange qui, elle, et on nous la montre comme étant beaucoup trop professionnelle. Enfin, pas trop professionnelle, mais trop... En fait, c'est pas une mauvaise chose d'être professionnelle, mais c'est juste qu'en fait, elle vit plus du tout ses émotions. Mmh. Et en fait, Kay, la première fois qu'elle l'a vue, elle a dit, mais en fait, je vois sa face, mais je ne vois pas son visage. Elle le dit tout le temps, en fait. Elle le dit tout le temps. Et donc, du coup, c'est cette confrontation de deux visions où t'as l'impression, en fait, que Ange, elle a besoin de prendre un petit peu de Kay. Et que Kay, elle a besoin de prendre un peu de Ange, justement, en fait, pour équilibrer tout ça. Et du coup, c'est pour ça que je disais que... Enfin, bah, il me semble avoir mentionné que c'était un shonen. Mmh. Et en fait, c'est... En fait, le manga est un shonen. Et on sent... Il est dans le Jump, je crois. Si, il est sorti dans le Jump, je crois. Ouais. Moi, ce que j'ai adoré avec Actage, c'est que ça m'a prise vraiment de bout en bout. Et qu'en fait, c'est un shonen. On peut voir, en fait, par exemple, les codes du shonen, à savoir que bah, tu as l'héroïne avec son don un peu spécial qui la rend unique, mais qui a besoin d'une évolution pour atteindre un meilleur stade.
Elle a besoin de progresser, genre, elle n'est pas over the top. Elle a un talent, mais elle ne l'utilise pas forcément bien, donc elle a besoin de progresser.
Voilà. Et on lui dit, hein, on lui dit pendant les deux tomes que si elle ne maîtrise pas ça, elle ne va pas faire carrière, elle ne va pas aller loin. Et en fait, on voit bah, sa rivale, qui est Chiyoko, et on se dit, bah, il y aura peut-être rivalité, amitié, en même temps Kay bah, commence à se faire des amis, à voir son groupe, donc on sent en fait tous ces codes du shonen, par exemple, tu parlais de confrontation, bah, typiquement, en fait, dans un manga de combat, elle se mettrait sur la gueule, quoi. Bah, là c'est juste que c'est pas...
Du même si elle va pas arriver dans le tome 3, genre, vu comment ça se finit...
Mais... qu'il y a une confrontation dans la scène.
Ouais,
c'est ça. Ah,
oui,
c'est ça.
Oui, parce qu'en fait, ouais, le projet auquel elles doivent jouer, c'est un... Ce qui est marrant, c'est genre juste, il y a genre 2-3 mois, il y a un film du même style qui est sorti, un genre de Battle Royale sur une île avec des jeunes, quoi. Ça s'appelle, chez eux, je crois que c'est Death Island, et je me demande si c'est pas le titre du film qui est sorti il y a pas longtemps. J'ai un petit doute là-dessus.
Ouais, moi aussi,
mais,
j'ai
mais du coup, voilà, en gros, elles sont sur un projet de série avec genre 12 acteurs connus de la chaîne, dont Ange, et 12 nouveaux acteurs. Ça, c'est pas la chaîne, la l'agence, production, ouais. Quoi. L'agence, merci. Et donc voilà, c'est donc il y aura des confrontations physiques, il y en a déjà eu, on a vu Kay plus ou moins bien réagir au truc parce qu'elle vit les scènes à fond, mais voilà, c'est marrant. En fait, après coup, elle a du recul, mais sur la scène, jamais, donc c'est très drôle.
Ouais, bah elle s'excuse parfois quand elle a vu qu'elle a fait un peu trop de la merde.
Elle a vraiment évolué parce qu'au tome 1, elle avait plus de mal en fait à... Elle comprenait même pas le recul qu'elle devait prendre en fait.
Elle comprenait pas qu'elle avait fait une faute, etc. C'est vraiment, c'est une surdouée d'un genre vraiment atypique. Elle est asociale, hein, de base. Hein.
Ouais,
elle ne connaît pas le concept d'amitié, etc.
Il y a presque une forme d'autisme vu en mode cliché hollywoodien, presque, même si on n'est pas américain. Mais ouais, enfin, c'est totalement ça. Elle est clairement asociale. Même au lycée, elle n'avait pas d'amis, personne ne lui parle jamais. Enfin,
bah ouais, c'est vrai, effectivement, il y a une scène où ils sont au lycée et en fait, ils mentionnent. Après qu'elle ait été prise pour le nouveau film. Ouais, après qu'elle ait été prise pour le nouveau film et ils mentionnent, comme tu dis, en fait, le fait que bah, personne ne lui parlait et qu'il ne savait presque pas qu'elle.
Mais, elle existe. Tout le monde la connaît, voilà, par contre. Ouais. Tout le monde la connaît, elle est sportive, dans la rue, tout le monde l'a déjà croisée.
Elle court tout le temps, en fait, elle est au lycée, qu'elle comptait arrêter à la fin d'ailleurs, et elle faisait des petits boulots par-ci par-là, en fait, parce qu'il faut de l'argent. T'as la petite thématique économique un peu intéressante.
Oui, bah, c'est son échelle de valeur de combien je peux faire de repas pour ma famille. Donc
c'est marrant comme des fois elle est trop honnête, genre elle veut refuser le premier truc qu'elle fait, c'est une pub, mais elle estime qu'elle l'a mal joué, donc elle ne veut pas accepter le cachet, genre son réalisateur qui plus son impresario, tout ça, lui dit genre non mais accepte, ne sois pas bête en fait.
Et ça fait partie du travail,
elle
ça
est
fait
tellement
partie du métier.
Honnête qu'elle voudrait refuser un truc si elle estime qu'elle a pas été à fond, même si les gens ont adoré tout ça.
Le personnage du réel aussi qui est cool, c'est du film.
Bah, il est très absent.
Oui.
Ah, le nouveau,
du
oui.
Film. Le nouveau,
il commence,
ouais,
en mode on ne sait pas trop ce qu'il fera, et en fait on voit qu'il.
Bah, au début on pense que c'est un.
Voir un méchant quasiment, il la manipule elle. En fait, pas du tout. Il manipule un peu tout le monde, mais pour que tout le monde s'améliore.
Tout
en fait.
Au final, pour aider Chiyoko.
En tout cas, la toute fin du tome 2, c'est vraiment ça, c'est positif. C'est pour que. Parce que on l'a vu en fait demander à Chiyoko de tacler entre guillemets Kay dès le début ou le milieu du tome 2, et à la toute fin du tome il demande l'inverse en fait à Kay, de rentrer dans l'art à Chiyoko, donc ça peut être assez cool.
Non, c'est vraiment cool. Nous on a tous adoré.
Alors perso, j'ai beaucoup aimé vraiment, mais juste
t'as
en
mis
gros
du temps à accrocher.
C'est un peu ça, je sais pas en fait. Puis, quand j'ai fini le tome 1 et que j'ai lu le tome 2 dans la foulée, parce que les deux sont sortis en même temps, mais j'étais pas en mode genre ouais Beastars j'ai kiffé de ouf directement, et là c'est vraiment j'ai pas dû me forcer, c'était très plaisant à lire. C'est un peu vide au niveau des décors, comme beaucoup de mangas en même temps, mais les personnages sont superbes, c'est très beau, il y a beaucoup de décors qui sont très grands, mais c'est plus de la, c'est pas réaliste mais c'est plus de la mise en scène en fait, genre donc c'est stylé, c'est pas un souci, mais voilà, j'ai bien aimé. Mais c'est vraiment, en gros, à la toute fin du tome 2 je me suis dit là ouais, bah vraiment je veux la suite, parce que déjà c'est un cliffhanger donc forcément, mais je pense que j'ai dû accrocher vraiment dans la moitié du tome 2, Mais bref, oui, résultat global, j'ai beaucoup aimé. Et j'attends vraiment de voir la suite parce que c'est très atypique.
Alors que moi, j'ai accroché direct au deuxième chapitre. T'avais déjà lu le premier chapitre. J'avais lu les deux premiers, ouais. Et j'avais vraiment direct à adorer. Moi, je pense que ça peut être clairement le manga de l'année, de très loin.
Je sais plus, il se finit déjà bientôt dans le Jump, hein, en VO. Il se finit bientôt ou pas
Non, je crois pas qu'on ait pas de. Je croyais qu'on ait une news là-dessus. Bah, ils viennent d'annoncer donc un casting pour une pièce de théâtre en vrai, donc du coup. Sur Acte, donc je sais pas du tout quel arc, je suppose que c'est l'arc des Island qu'ils adaptent, puisqu'il correspond, je crois qu'ils cherchaient 12 acteurs, il correspond totalement à l'arc du manga. Je trouve ça vraiment trop bien comme concept, c'est vraiment ça respecte. Bah, ils auraient pu en faire une série drama ou un anime, ouais. Ils vont sûrement faire un anime, il y a de grandes chances.
Ou un drama.
Peut-être les deux.
Parce que si t'as besoin de full CGI partout, ça peut très bien se faire.
Enfin, ils ont besoin de rien.
Là, clairement, oui. T'as des décors qui sont clairement
sûrement des décors dramas les moins chers du Jump qu'on ait jamais vu. Mais non, ils peuvent le faire. Je pense qu'il y aura clairement un anime et peut-être pourquoi pas un drama. Et j'avoue que tout est bon à prendre si les acteurs sont bons parce que tout joue sur Kay. Vraiment, mais s'ils trouvent quelqu'un qui est satisfaisant, qui correspond à cette sorte de naïveté et en même temps de talent.
Elle a besoin d'avoir ça dans la vraie vie. Il faut juste qu'elle sache le transmettre en jouant, quoi.
Oui, mais il y a le côté, elle est ingénue. Tout le temps, genre elle connaît vraiment rien de la vie.
C'est pas genre l'ingénue nièce qui se laisserait avoir par tout le monde en fait, parce qu'elle a l'intelligence de.
Bien sûr.
Elle pense à l'argent tout le temps, par exemple.
Oui, puis elle dit par exemple au Réal que c'est un pervers.
On peut conclure, je pense, après avoir parlé de l'évolution de Beastars, après avoir parlé de Act Age qu'on a tous les trois découvert.
C'était un plaisir de vous retrouver, Lucas, Florimond et le reste de notre auditoire. Très content, très contente de reprendre en fait tout simplement les podcast, ouais. Ça nous a manqué. Et
avec un peu de chance, on pourra faire un meilleur rythme sur la prochaine.
Ouais, je pense qu'on va essayer d'être un peu plus régulier à ce sujet. Donc surtout, n'hésitez pas, tout simplement dans les commentaires, à dire ce que vous avez pensé du podcast. Est-ce que vous avez lu Act Age? Est-ce que vous avez lu Beastars?
Vous devriez.
Vous devriez, pour les deux en tout cas.
Ciao tout le monde.
Ciao.
Salut.